Tout de suite retrouvez Sidra, présenté par Jean Chekroun et le grand rabbin Avraham Weil, qui vous parleront de la paracha de la semaine.
Shabbos Kodesh, Shabbos Kodesh, Yidelech prepare for Shabbos Kodesh, joy is in the air for Shabbos Kodesh, everyone with a soul aflame to meet the Shabbos Kodesh, everyone with a role to play to greet the Shabbos Kodesh, a priceless gift.
Bonjour et très heureux de vous retrouver sur Radio Judaïka Strasbourg pour ce nouveau numéro du commentaire de la paracha de la semaine avec, comme chaque semaine, Harold Avraham Weil, grand rabbin de Strasbourg et du Bas-Rhin. Monsieur le grand rabbin, bonjour.
Bonjour.
Et cette semaine, nous avons la joie et le plaisir d'avoir un invité spécial. Il s'agit du Hatan Abar Mitzvah de la synagogue de la paix, s'il vous plaît, Shai Geisman. Bonjour Shai.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Demain, nous lirons la paracha Baal Otecha. L'allumage des bougies, ce sera avant 21h15 et la fin du Shabbat, 22h32. Les horaires sont uniquement valables pour Strasbourg et sa région. Comme chaque semaine, un message de Refoua Shelema à tous les malades et une pensée particulière pour les personnes âgées et isolées. Et cette semaine, M. Grand Rabbin, on a des Mazal Tov à annoncer. Et on commence par le rabbin Gatseba qui fait la bar mitzvah de son fils.
Tout à fait, on adore les bonnes nouvelles. Et on souhaite un immense Mazal Tov au rabbin Gatseba, à son épouse Tselia, pour la bar mitzvah de leur fils Yehuda. Je rappelle d'ailleurs qu'il y aura ce soir un office commun pour nos deux bnei mitzvah, Shai et Yehuda. Ça se passera à la Grande Synagogue, ça montre vraiment l'entente, la concorde qui existe au sein du consistoire. Et les familles Geisman et Sebag ont tenu à se réunir pour cet office. On souhaite également, bien sûr, un grand Mazal Tov aux grands-parents de Yehuda, à sa grand-mère, Madame Léa Sebag, ses grands-parents Eva et Moshe Balouka, ainsi que ses arrière-grands-parents, Sarah et Eliaou Balouka. Yehuda a mis cette filine mardi pour la première fois. C'était un très grand moment de fête et on lui souhaite vraiment de poursuivre dans cette voie royale tracée par ses parents et ses grands-parents.
Et à vous, c'était aussi évidemment un Mazal Tov à Shai Geisman, un petit mot sur le grand rabbin.
Bien sûr, alors Shai, c'est notre petit chouchou. Shai, je le rappelais la semaine dernière, est omniprésent dans cette communauté. Et non seulement il participe aux activités communautaires, mais on le voit systématiquement avec ses frères, avec ses parents, mettre la main à la pâte. C'est lui qui prépare la plupart des activités communautaires auxquelles vous avez la chance de pouvoir assister, que vous propose le consistoire. Mais Shai est également omniprésent lors des différents offices communautaires. C'est un personnage incontournable, hein, notre cher Shai de la grande synagogue de Strasbourg, la grande choule. Et on l'entend depuis maintenant quelques temps se préparer à sa bar mitzvah avec sa très belle voix, interpréter donc la Kabbalah de Shabbat notamment, ainsi que différentes parties de la Tfila. Donc Shai, du fond du cœur, on te souhaite de poursuivre toi aussi sur cette voie royale qui t'a été tracée par tes parents et de pouvoir toi-même, avec tes propres moyens, eh bien, pouvoir grandir et pouvoir continuer à te construire.
Voilà, Shai qui a mis cette ligne dimanche dernier, il ira évidemment la paracha demain. Mazal Tov donc à ses parents, Davina et Stéphane, illustrateur actif du consistoire, et Mazal Tov aux frérots Ruben et Ronny. Également une pensée pour les grands-parents Cathy et Jackie Geisman, Zichrono Livrachon, qui malheureusement ne sont pas de ce monde. Et évidemment, Mazal Tov à Martine et Moïse Selam. Et aussi, on n'oublie pas, un Mazal Tov à l'arrière-grand-mère de Shai, Mesouda Selam, à qui on souhaite une bonne santé et que j'embrasse tout particulièrement. C'est ma tante, on ne se cite pas autour de la radio. Voilà, on va commencer par le résumé de cette paracha de Baal Otecha, paracha riche en l'occurrence.
Tout à fait, un résumé un peu long car la paracha est très riche en événements. Elle commence autour d'un sujet que l'on a déjà abordé dans des sidrotes précédentes, notamment les sidrotes consacrées à la construction, à la fabrication du tabernacle, du Mishkan. Il s'agit de l'allumage de la menorah. Et on y reviendra dans un instant. On va voir pourquoi est-ce que la Torah a jugé nécessaire de nous reparler de l'allumage de la menorah au début de cette paracha. Puis il sera question de la consécration des Lévi'im. On abordera par la suite aussi un sujet particulièrement intéressant, qui est celui du Pessah Sheni, en quelque sorte le second Pessah, le Pessah de rattrapage. Mmh. Et je n'en dis pas plus pour l'instant, on y reviendra sans doute au cours de cette émission. On nous parlera ensuite, là encore, d'un sujet passionnant qui était celui du voyage, l'organisation des voyages dans le désert, avec le système qui permettait au Klal Israël de pouvoir de manière organisée, ordonnée, eh bien, quitter les différents campements.
Justement, c'était le premier voyage d'Ibn Israël.
Oui, tout à fait. Donc vous imaginez que ça nécessitait une organisation particulière lorsqu'il fallait faire décamper sorte, autant de tribus. Et si on voulait que ça se passe dans de bonnes conditions, bien sûr, on parle, au-delà du fait de vous faire voyager les tribus, également de faire voyager le tabernacle et de le déconstruire, de le reconstruire, de le transporter. Tout ça nécessitait une organisation particulière. Et donc, on nous parlera de ce système qui permettait de donner l'alerte, les nuées divines, trompette, ainsi que les trompettes, effectivement, qui sonnaient littéralement l'ordre de départ. Nous aborderons par la suite un sujet, on nous parlera d'un échange très intéressant entre Moshe et son beau-père, Yitro, hein, qui est un personage là aussi tout à fait central dans la Torah, puisqu'il a une paracha, rappelons-le, qui lui est consacrée. On a vu à quel point Yitro a été de très très bons conseils pour son fils, là aussi, notamment dans l'organisation de la justice au sein du peuple. Et on aura, dans la fin de la paracha, vers la fin de la paracha, malheureusement, des épisodes un petit peu plus tragiques, et notamment l'épisode des récriminations, plusieurs épisodes de récriminations qui, d'ailleurs, jalonneront un petit peu la vie du peuple d'Israël durant les 40 années qu'ils passeront dans le désert. Donc ce n'est que le début, en réalité, de longues récriminations. Et donc c'est à ces récriminations qu'est consacrée la fin de la paracha, avec tout à la fin de la paracha l'épisode, le fameux épisode du Lashon Hara, de la médisance de Myriam et d'Aaron à l'encontre de Moïse. On y reviendra aussi, c'est la fin de la paracha, un peu dur et édifiant, mais en tout cas qui nous donne une très très belle leçon et qui doit nous amener à réfléchir.
Alors au début de la paracha, on parle de la menorah, de son importance. Mais en lisant les commentaires et le texte un peu, on a quand même l'impression que c'est un lot de consolation, entre guillemets, pour Aaron, parce qu'il n'a pas participé à l'inauguration du Mishkan. Comment vous lisez ce passage-là ?
Alors effectivement, pour parler de l'eau de consolation, c'est Rashi, le premier Rashi de la paracha, qui va suggérer cette idée de consolation et qui nous permettra sans doute de comprendre pourquoi est-ce que la Torah a jugé utile de nous reparler ici de l'allumage de la menorah, alors qu'elle l'avait déjà fait lors de Sidrot précédente, à la fin du livre de Shemot. Il est effectivement question de l'eau de consolation, dans le sens où Aaron, nous dit le premier Rashi de la Torah, en rapportant le Midrash, Aaron était extrêmement attristé, il était touché, il était peiné par le fait que ni lui, ni sa tribu n'avaient été conviés à l'inauguration du Mishkan. Rappelez-vous, Jean, la fin de la parachat Nassau, extrêmement longue et rébarbative, puisqu'elle va reprendre 12 fois le même paragraphe, nous avait exposé les 12 sacrifices qui avaient été apportés lors de 12 journées différentes par les 12 princes de tribu. Or, il s'avère que la tribu de Lévi n'en a pas fait partie. Je vous rappelle que la tribu de Yosef avec Ephraïm et Ménaché est divisée en deux. Donc, on a en réalité 13 tribus si on divise en deux la tribu de Yosef. 12 sacrifices, 12 journées. Il manque donc nécessairement une journée, une tribu. C'est effectivement la tribu de Lévi qui est absente. C'est un peu paradoxal lorsque l'on sait que cette tribu de Lévi est toujours montrée en exemple, qu'Aaron a été exemplaire toute sa vie, même lorsqu'il a fallu prendre la décision difficile de prendre parti au projet du veau d'or. On sait quel était l'état d'esprit qui animait à ce moment-là Aaron. Il voulait tempérer, il voulait gagner du temps, il voulait faire en sorte justement que le peuple ne sombre pas. Et d'ailleurs, Moshe le lui a rappelé lorsqu'Aaron avait honte de s'approcher du Misbéach parce qu'il ne se sentait pas du tout à sa place. Moshe lui a dit, n'oublie pas que c'est pour cela que tu as été choisi, pour tes qualités humaines. Et donc ce long de consolation, c'est ce que Dieu va lui dire. Certes, tu n'as pas fait partie de l'inauguration du Mishkan, mais je t'ai réservé une mission bien plus importante et bien plus noble que celle des princes de tribu. Toi, ta mission ne sera pas éphémère, elle ne consiste pas à apporter un sacrifice d'inauguration, mais elle consiste à allumer et à entretenir la menorah au quotidien. Cette tâche quotidienne est une tâche bien plus noble parce qu'elle est répétitive, parce qu'elle te permet de t'impliquer quotidiennement, de renouveler un petit peu le rapport que tu entretiens avec cette menorah et avec l'ensemble du Klal Israël au quotidien. Ça, c'est une tâche qui s'effectue dans le temps, et c'est finalement dans le temps que l'on peut reconnaître la qualité d'une personne. Ce n'est pas par sa capacité à briller ponctuellement, mais par sa capacité. Donc c'est un lot de consolation. En disant à cette personne, en disant à Aaron, tu vois, toi, je ne t'ai pas offert la capacité de briller ponctuellement. Tout le monde est capable de briller ponctuellement dans sa vie, d'avoir des moments d'éclat, de faire des coups d'éclat. La grande force d'Aaron, c'est d'être en capacité de briller quotidiennement et dans la discrétion. Ça, c'est la force d'Aaron.
Alors, Dieu consacre les Lévis, et il y a un des versets qui m'a interpellé, où il dit « Prends-les par persuasion ». Est-ce qu'on a besoin de persuader quelqu'un de recevoir un honneur, d'avoir une place particulière ?
Alors, vous vous avancez un petit peu, Jean, c'est Rachi qui dit « Prends-les par persuasion ». Le verset nous dit que lorsque Hachem s'adresse à Moshe, il lui dit « Kach et Alvim, prends les Lévis, mitor béné Israël, du sein des béné Israël, d'entre les béné Israël ». Vetiarta otam et tu les purifieras. Donc il s'agit ici d'un passage qui est consacré à la, justement, c'est le cas de le dire, à la consécration des Lévim. Et ce kach interpelle. Pourquoi est-ce qu'il s'agit de prendre les Lévim? Ils sont là. Il y a plusieurs explications. Rashi effectivement nous dit kach talvim. Il fallait les persuader. Il fallait avoir des paroles qui les rendent dignes, en tout cas, et qui puissent leur expliquer l'importance de leur mission. Non pas que les Lévim ne souhaitaient pas s'engager dans cette mission, mais qu'il était important et fondamental qu'ils comprennent que cette mission était une mission à part entière. C'était une mission qui, en quelque sorte, ne ressemblait à aucune autre. Et les autres commentateurs, que ce soit Rabbeinu Bechaye, le Rambam, vont également aller dans ce sens en nous disant que dans ce kach et alvihim, il fallait véritablement sortir les Lévihim de leur quotidien, de ce qui avait été leur vie jusqu'à présent, pour leur dire à partir de maintenant, votre vie sera différente, votre mission est une mission noble qui vous demande une aspiration particulière.
Alors après, on évoque évidemment le déroulement de l'intronisation des Lévis. On va pas y rester 150 ans. Et Chai, il y a une question.
Et on évoque le Corban Pessar et Pessar Sheni. C'est qui note que Pessar Sheni est nécessaire? Pourquoi ce Pessar Sheni est si important? Pour quelle raison?
Alors Chai pose une excellente question. Effectivement, cet épisode du Pessar Sheni tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Et d'ailleurs, les commentateurs feront remarquer qu'il n'y a pas forcément nécessairement de chronologie dans la Torah. Cet épisode de Pessar Sheni concerne, nous dirons nos commentateurs, des personnes qui n'étaient pas aptes à apporter le Corban Pessar lors de la sortie d'Égypte, la veille de la sortie d'Égypte, tout simplement parce qu'elles étaient en état d'impureté. Et donc ça, c'est la Torah qui nous le dit, mais les commentateurs nous disent que cette impureté n'était pas une impureté générée volontairement. Ils avaient dû se rendre impurs, soit parce qu'ils devaient porter le cercueil de Yosef. Rappelons que Yosef avait laissé des instructions très très claires au moment de sa mort, et il avait demandé à ce qu'on emporte ses ossements en dehors de l'Égypte pour pouvoir les amener en Eretz Israël. Il fallait donc nommer des personnes qui puissent s'astreindre à cette noble tâche, transporter le corps de Yosef, et donc elles s'étaient rendues impures pour la bonne cause. D'autres s'étaient rendues impures pour s'occuper d'un maître mitzvah, un mort qui n'avait personne pour s'occuper d'eux. Et donc, eh bien, ces personnes-là, et c'est ce qui fait la grandeur de ce passage-là, ont demandé à pouvoir aussi participer. Elles ne voulaient pas être lésées, mais il y a une aspiration personnelle. C'est ce qui fait l'importance. Chaim m'interrogeait sur l'importance de cet événement. Ouais. Cet événement est important parce qu'il vient mettre ici en avant une initiative personnelle. Ce n'est pas Dieu qui dit, eh bien, écoutez, vous savez, ceux qui n'étaient pas là lors du premier Pessar vont avoir l'occasion de se rattraper. C'est une demande, une aspiration spirituelle de la part du peuple. On n'était pas là et ça nous manque. On le vit comme quelque chose, comme une lacune personnelle. On le vit comme quelque chose qui nous empêche d'avancer. Donc, s'il te plaît, Hachem, offre-nous la possibilité de prendre part aussi à cet événement.
Alors, on parle également de nuées de trompettes. La trompette, j'ai compris à quoi ça servait. Par contre, les nuées, alors là, je suis un peu compliqué. Ça s'allume, ça s'éteint. Est-ce que vous pouvez nous éclairer, sans jeu de mots?
Tout à fait, sans jeu de mots, parce que les nuées, en réalité, on les connaît depuis la sortie d'Égypte, puisque dès la paracha de Béchalach, qui nous parle en long et en large de cette sortie d'Égypte, on voit que les nuées accompagnaient immédiatement les Bnei Israël, qu'elles servaient à les protéger le jour, les protéger également la nuit, mais également les éclairer. Et ces nuées, eh bien, elles sont le signe, bien sûr, de la présence divine. Et donc, on n'est pas surpris, Jean, de voir que lorsque ces nuées quittaient le camp, lorsqu'elles s'élevaient, c'était le signe, finalement, qu'il fallait partir. C'est en quelque sorte la présence d'Akadosh Baruch Hu qui s'élève et qui dit, eh bien, maintenant, on va partir. Lorsqu'en revanche, les nuées restaient en place, eh bien, c'était le signe qu'Akadosh Baruch Hu maintenait sa présence.
Alors,
et qu'il n'était pas question
d'Israël de partir. Alors,
on en revient ici au sens, puisque c'est la question que vous m'avez posée.
Oui.
de ce déplacement, ouais, en quelque sorte des nuées pour indiquer au clan Israël qu'il fallait partir, ou au contraire qu'il fallait rester. Pourquoi je dis au contraire qu'il fallait rester? Parce que c'est ce que le Ramban notamment va mettre en exergue, le Nachmanide, nous dire, et il n'est pas le seul, plusieurs commentateurs le rejoignent, Rabbeinu Bechaye notamment, et d'autres commentateurs, de nous dire que la grande force du clan Israël, c'était de témoigner toute la confiance qu'il avait en Dieu, en acceptant de se soumettre à sa volonté. Et le peuple était parfois fatigué, il avait parfois envie de passer plus de temps dans un endroit qu'un autre. Eh bien, si Dieu en avait décidé autrement et qu'après quelques heures seulement, la nuée se levait, il fallait repartir, malgré l'envie qu'on avait parfois de se reposer alors qu'on venait à peine de poser ses affaires. À l'inverse, il y avait parfois des endroits qui étaient moins séduisants, qui étaient parfois même un petit peu inquiétant et qui n'était pas toujours, on va dire, des plus sympathiques. Et pour autant, eh bien, si Dieu avait décidé de maintenir sa présence, il fallait, pour se soumettre à cette volonté, être capable de rester. Donc il y a aussi la volonté ici, au travers de ce système, de montrer cette grande confiance que le clan Israël était capable, à ce moment-là, de manifester. Ah, à Kadosh.
Alors, à certaines parties, on va arriver à un élément que vous avez cité, Shai, c'est la rencontre avec Yitro.
Bah, la rencontre entre Yitro et Moshe, alors que le texte parle de Chovav. Pourquoi cette rencontre est rapportée dans la Torah? Quelles informations nous est données?
Alors, effectivement, on est surpris de voir Yitro ici est présenté sous un autre nom, le nom de Chovav, et Rashi fera remarquer immédiatement qu'en réalité, Yitro portait plusieurs noms. Il portait de nombreux noms. Les noms, on le sait, d'ailleurs comme Moshe, hein, c'est intéressant de voir la similitude. Moshe aussi portait un certain nombre de noms. Et ces noms-là viennent toujours mettre en avant un aspect de la personnalité de l'individu qu'on nous présente. En réalité, ici, Yitro est appelé Chovav parce qu'il était particulièrement cher. C'est ce que vont proposer un certain nombre de commentateurs. Il avait un amour. Chovav, ça vient de Chiba. Chiba, c'est l'amour qui était le sien pour la Torah. Et d'ailleurs, certains commentateurs pencheront pour le fait que ce nom-là de Chovav, c'est un nom que Yitro avait choisi lorsqu'il s'était converti, comme c'est la tradition, vous le savez, lorsqu'une personne décide de se convertir, elle choisit elle-même un nom qui est un nom juif et qui correspondra en principe à sa personnalité. C'est un nom qu'elle va choisir et qui est en principe le nom d'une personnalité qui lui parle particulièrement. Et c'est, d'après un certain nombre de commentateurs, ce qu'a fait Yitro en choisissant ce nom de Chovav qui montre l'amour qui était le sien pour la Torah. D'accord. Il est tout à fait normal qu'on nous rapporte cette conversation, car il s'agissait ici de convaincre Yitro de rester, s'inscrire dans le projet qui était celui du clan Israël et de partir en Eretz Israël. Oui, mais Yitro, on a vu l'importance qui a été la sienne au sein du clan Israël. Yitro était un exemple. La démarche qui a été la sienne, malgré la vie antérieure qui était la sienne, cette notoriété dont il jouissait, et cette capacité qu'il a eue, cette propension de quitter cette position sociale pour rejoindre le clan Israël en fait un homme fort. Cet homme fort, on a envie de l'avoir avec nous, on a envie qu'il nous suive jusqu'en Eretz Israël, et c'est la raison pour laquelle, par des arguments particulièrement percutants et convaincants, Moshe va tenter de séduire Yitro, de lui demander de rester parmi le peuple. On n'a pas la réponse, hein, vous l'avez remarqué, Jean. On nous dit que Moshe a essayé de le convaincre. On ne sait pas à la fin si Yitro est resté ou n'est pas resté. Une bonne partie des commentateurs pensent que Moshe a été suffisamment persuasif pour que Yitro reste. D'autres pensent qu'il n'a envoyé que ses enfants. Mmh. Et quoi qu'il en soit, en tout cas, il y a une partie, dans tous les cas, et d'après tout le monde, de la descendance de Yitro qui va intégrer définitivement le clan Israël et l'accompagner jusqu'en Eretz Israël.
Un peu comme d'habitude, j'ai envie de dire, les Israël se sont révoltés. Ils ont fait un peu la révolution. D'ailleurs, on ne sait pas pourquoi les Israélites sont pleins en l'occurrence.
Alors, dans la première, effectivement, le premier verset qui nous parle de cette récrimination, on nous dit simplement Vayiham kemitonenim rab ozne Hashem, que le peuple chercha des sujets de récrimination et que c'était mal aux oreilles littéralement d'Hashem. Vayishma Hashem vayicharapo, qu'Hashem a entendu tout ça et que sa colère s'est enflammée. C'est le premier verset et il y a une réaction immédiate de la part d'Akadosh Baruch Hu. C'est vatishkaesh, un feu qui va prendre au coin du camp. Le peuple va prier pour se sortir de cette plaie qui le touche, et ils vont donner d'ailleurs un nom à cet endroit qui est Tavera, donc l'endroit où le feu a pris, où le camp s'est enflammé. Et puis juste après, Asaf souffre, nouvel épisode de récrimination. D'accord. Si on ne donne pas de raison, sens pour le premier, c'est justement pour montrer que ces récriminations étaient futiles, qu'elles étaient gratuites. Présenter le motif de récrimination viendrait presque à le légitimer. Or, la Torah veut montrer à quel point, et ça sera malheureusement le cas durant les 40 années passées dans le désert, eh bien, le clan Israël va faire preuve d'ingratitude et va être capable de se plaindre sans la moindre raison, ou en tout cas pour des motifs complètement futiles qui ne valent même pas le coup d'être rapportés par la Torah.
Shai, La question suivante.
Alors, pourquoi une punition par le feu et pas par un autre moyen ?
Alors le feu, c'est bien sûr, il exprime la colère, on l'a rappelé, le feu avec la chaleur qu'il représente. Il exprime en même temps cette colère d'Akadosh Baruch Hu, ce courroux, et donc c'est sans doute la raison pour laquelle c'est le feu qui prend, et aussi parce que du coup, le feu ici va prendre les contours du camp. Ça fait écho à beaucoup de choses, hein, ce feu qui prend un petit peu à l'extérieur. Bien sûr, on a, on va dire, le sens propre finalement de cette image, mais on a aussi le sens figuré. Ce feu comme un petit peu un feu de poubelle qui prendrait par l'extrémité, comme on a l'image d'un champ, hein, qui commence à s'enflammer un petit peu de côté, et puis qui petit à petit va s'étendre sur une plus grande surface. Et bien ce feu-là qui prend au niveau de l'extrémité, il fait référence à l'extrémité du camp, son extrémité peut-être au niveau spirituel, c'est-à-dire les gens qui étaient un petit peu en marge, ceux qui n'ont jamais cherché véritablement à se mêler aux autres parce que, eh bien, tout simplement, c'était des gens qui étaient animés de mauvaises intentions depuis le départ. Donc, ceux qui restent un petit peu en marge, eh bien, c'est ceux qui ont posé des problèmes depuis la sortie d'Égypte jusqu'à l'entrée en Eretz Israël, et c'est forcément, puisque c'était eux qui étaient à l'origine du problème, c'est eux qui ont été touchés en premier par cette punition.
Il y a une autre question, Shai, que tu voulais poser ?
Alors, pourquoi Hachem se met en colère contrairement aux fois précédentes ?
Alors Hachem va se mettre en colère cette fois, et on va voir, Shai, et tu as raison de poser la question, que lorsque, quelques versets plus loin, donc on nous parle du Asaf Souf, de cette populace qui se trouvait en son sein, et que cette fois-ci on va nous expliquer quelle est la récrimination, qu'il trouve que la nourriture est fade, qu'elle manque de saveur, que la manne finalement a toujours le même goût, qu'on aimerait une vie avec un peu plus de couleur. Cette fois-ci, on va nous dire que Dieu ne va pas simplement se mettre en colère, mais il va se mettre dans une grande colère. Et c'est la première fois, et peut-être l'unique dans toute la Torah, où l'on voit Dieu se mettre dans une telle colère. « Vayichar af Hashem, me'od » La colère de Dieu s'enflamma grandement. On n'a jamais vu ça. « Uvene Moshera » Tandis qu'aux yeux de Moshe, eh bien, la chose était particulièrement mal. Ça, on l'avait vu un peu plus haut. Mais cette fois-ci, la colère de Dieu est immense. Pourquoi elle est immense ? Parce que là, encore une fois, le motif de récrimination non seulement est futile, mais c'est encore plus grave. Ils vont carrément utiliser un cadeau qui leur a été donné par Dieu. J'ai développé ce sujet dans une courte vidéo. Un cadeau qui leur a été offert par Dieu, c'est-à-dire sa présence, son accompagnement, pour le lui renvoyer à la figure. Lorsque tu étais en Égypte, tu n'as jamais pensé à te plaindre parce que la vie était déjà tellement difficile que tu n'avais pas d'aspiration matérielle. Ne profite pas de la situation que Dieu t'a offerte,
il
t'a délivré.
Mais disait qu'il y a eu avant déjà des récriminations, que Dieu avait, on va dire, passé l'éponge. Pourquoi ? Précisément.
Alors précisément, maintenant je le dis, justement parce qu'il y a une forme d'hypocrisie et de malhonnêteté intellectuelle aussi de la part du peuple. Non, et je fais référence notamment à la faute du veau d'or, je l'avais fait volontairement dans cette petite vidéo parce que c'est sans doute le plus grand épisode de crise de l'histoire du clan Israël, où vraiment la fiancée, alors qu'elle est encore sous la choupa, comme nous disent nos maîtres, va trahir, hein, son fiancé en faisant le veau d'or. Mais à ce moment-là, eh bien, tous les indices, hein, nous laissent croire qu'il y a ici un coup de folie finalement de la part du clan Israël qui va se laisser emporter par son immaturité, par sans doute aussi bien ses passions, ce qui n'est pas le cas ici. Ici, on nous dit bien qu'on a déjà affaire à un peuple qui a bénéficié de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Ça fait maintenant un certain temps qu'il est sorti d'Égypte. Dieu lui a permis d'accéder à une certaine noblesse, et ce peuple, plutôt que d'utiliser cette noblesse pour se grandir, va la renvoyer à la figure d'Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on est malhonnête intellectuellement, malheureusement, les signes d'inquiétude sont beaucoup plus graves parce que le mal est beaucoup plus profond.
Alors, on va quand même finir à pas parler de l'histoire de la médisance de Aaron et de Myriam sur leurs frères. On va commencer, Shai, par une première question sur cette médisance.
Pourquoi seule Myriam a été atteinte de Tsaraat et pas Aaron ?
Alors Rashi répond à ta question, Shai. D'ailleurs, lorsque le texte nous présente cet épisode, il nous parle en premier lieu de Myriam. Hein. C'est Myriam qui a l'air d'être à l'initiative de ce Lashon Hara. Et je reprends d'ailleurs le premier verset du chapitre 12, Shai, qui nous dit « Va tedaber Myriam ve Aaron be Moshe ». C'est Myriam et Aaron qui ont parlé à l'encontre de Moshe. Alors, imaginez que Myriam étant plus âgée, on l'a cité en premier, mais ici c'est à dessein, non pas parce qu'elle est l'aînée, mais parce que Myriam est celle qui a eu cette initiative, c'est elle qui a pris connaissance Aaron de la chose, elle l'a partagée avec Aaron, bien sûr, et donc Aaron, lui, a participé après à ce Lashon Hara, mais celle qui a été à l'initiative de ce Lashon Hara, de cette médisance, c'est Myriam. Et puisqu'elle en a été était à l'initiative, eh bien, c'est elle qui va, Aaron n'est que complice en quelque sorte de cette médisance, et donc c'est la raison pour laquelle, nous expliquent nos maîtres, eh bien, c'est Myriam seule qui va être touchée par cette punition.
Elna refa na elna, de grâce Dieu guérit là maintenant. Cette phrase est souvent prononcée pour les gens qui sont malades. C'est quoi, en gros, la spécialité de cette phrase? Pourquoi cette phrase a été reprise comme, on va dire, un médicament, entre guillemets?
Alors, cette phrase, cette prière, déjà, Jean, vous remarquerez qu'elle est extrêmement courte. Elle tient en quelques mots, elle tient en cinq mots. Kelna refanala, elle tient en cinq mots, même si dans les Miché Bérard, notamment chez les Sfaradim, on a l'habitude de la répéter trois fois, justement pour bien marquer la chazaka, hein, la présomption vraiment de force de cette prière. Elle tient en cinq mots, et parfois, il y a plus de puissance dans une prière courte que dans une prière très très longue. D'ailleurs, Rachid nous fait remarquer que volontairement, Moshe a écourté sa tefila pour ne pas donner l'impression que pendant que Myriam souffrait, consacrait son temps à la prière, ou bien, d'après certains, vous voyez comment Moshe faisait vraiment attention, même aux réactions du peuple, et bien qu'on ne puisse imaginer que Moshe ne prier ici que parce qu'il s'agissait de sa sœur longuement, mais que si jamais il s'agissait de quelqu'un d'autre, Moshe aurait sans doute récité une prière plus courte.
Il paraît qu'il a fait un rond avec un au milieu du rond. Donc il a
alors
fait...
là, vous vous lancez dans des choses sans doute très ésotériques, Jean, mais je répondrai simplement très rapidement à votre question sur la puissance de cette prière, sa particularité. C'est ça, bien sûr, c'est donc le côté extrêmement court de cette prière, mais aussi extrêmement puissant. Chaque mot a été choisi, et on fait ici ressortir les différentes dimensions d'Akadosh Baruch Hu. Déjà, on en appelle bien sûr au Chesed, hein, à sa Rachmanout, aussi à sa miséricorde, c'est ce qui transparaît ici des mots, et surtout à une volonté d'immédiateté. On ne cherche pas à commander, bien sûr, à Kadosh Baruch Hu en disant « réponds immédiatement », mais on voit au travers de cette prière la détresse qui est celle de Moshe, qui dit « lorsque mon prochain souffre, eh bien, je te demande », et on sait l'importance de prier pour quelqu'un d'autre, la puissance de la prière lorsqu'elle est dirigée à l'intention de quelqu'un d'autre. Elle est bien plus puissante encore qu'une prière qui est dirigée vers soi.
Ça veut dire que ma prière est moins que la vôtre.
Ça veut dire que lorsqu'on prie, c'est ce que nous disent nos maîtres, lorsqu'on a la force et la capacité, parfois même aussi un petit peu l'humilité de pouvoir prier pour quelqu'un d'autre, eh bien, Nénatrila, à ce moment-là, nous sommes exaucés pour nous-mêmes. Et Moshe a un petit peu réussi à introduire toutes ces dimensions dans cette fila courte. Hachem, j'en fais appel à ta miséricorde, j'en fais appel à ta bonté, mais je te demande aussi de ne pas laisser traîner les choses. Il est insupportable pour moi de voir cette personne souffrir, et donc je te demande immédiatement de mettre un terme à sa souffrance. Et c'est cela que nous reproduisons lorsque nous prions aujourd'hui pour une personne malade.
Voilà. Et on souhaite encore une fois, refoua chez les mains, à toutes les personnes qui sont malades. Merci, M. Grohamin.
Merci beaucoup, Jean, et merci à Chai. Il a été vraiment extraordinaire pour sa première émission.
On peut dire qu'il peut revenir.
Il peut revenir quand il veut.
D'accord. Tu peux revenir. Merci, Chai. Merci c'est Robin qui a réalisé cette émission. Et merci à vous. Shabbat shalom et encore mazal tov, Chai.
Merci.
Shabbos Kodesh, Shabbos Kodesh, Yidelach prepare for Shabbos Kodesh, joy is in the air for Shabbos Kodesh, everyone with a soul aflame to meet the Shabbos Kodesh, everyone with a role to play to greet the Shabbos Kodesh, a priceless gift, a spiritual lift.